Patrick Roger.
Le baclofène devrait bénéficier d'ici l'été d'une recommandation temporaire d'utilisation en tant que traitement contre l'alcoolisme, alors qu'il était jusqu'à présent prescrit comme relaxant musculaire. Stop à l'alcool, baclofène, remède miracle, c'est le débat d'Europe à midi.
Nous allons en débattre donc avec nos invités.
Nous sommes avec Marie, traitée au baclofène pour son alcoolodépendance, avec nous également le professeur Philippe Jory, professeur en médecine générale à l'Université Paris-Descartes et coordinateur de l'essai clinique Bacloville. Le docteur Amine Benyamina est psychiatre, addictologue, responsable du centre d'enseignement, de recherche et de traitement des addictions, auteur notamment de Promis, Demain j'arrête chez Michel Lafon, et puis Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Alors, remède miracle ou pas, nous allons en débattre dans un instant avec nos invités ici même, donc les spécialistes. Mais avant ça, donc, nous allons appeler Marie pour nous raconter son histoire. Marie qui a bu pendant longtemps. Et Marie, donc vous avez arrêté et ça marche avec le baclofène. C'est ça, racontez-nous.
En fait, oui, je buvais, à la fin, j'en étais arrivée à 4 bouteilles de vin par jour, et je buvais depuis plus de 20 ans. J'ai entendu parler du baclofène sur Internet. Au bout de 2 semaines, j'étais déjà passée de 4 bouteilles à 1 bouteille. Et puis après, en augmentant les doses, je commençais à diminuer. Après, sont restés quelques verres. Et là, je me suis rendu compte que ça servait à rien de continuer à augmenter le baclofène, puisque là, c'était des verres de l'habitude, on va dire.
Quand vous dites augmenter les doses du baclofène, vous preniez quoi au début et par la suite? Plusieurs comprimés? Comment ça se traduit?
J'ai commencé par 3 fois un demi-comprimé par jour, donc 5 mg par jour, et j'augmentais tous les 3 jours de 5. Et je suis arrivé à plus de 350.
Et ça représente combien de comprimés?
Ça fait 22 comprimés.
Oui, 22 comprimés, oui. Qu'il faut prendre régulièrement tout au long de la journée.
Oui, voilà, après ça dépend. Il y a des gens qui ciblent vraiment les moments où ils boivent, où ils ont ce qu'on appelle le craving, le moment où ils ne peuvent pas résister, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils boivent et ils continueront de boire jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Mmh. Et puis là, moi j'en prends en entraînation, en fait, tout au long de la journée.
Et physiquement, comment vous ressentez l'effet du médicament? Ça vous coupe le goût, l'envie? Comment ça se traduit?
Ben, je sais pas, ça apaise, ça coupe, oui, ça coupe l'envie, en fait. On se sent, enfin, en tout cas pour moi, je me sens dans un rapport totalement normal avec l'alcool et qui me convient. Si par exemple j'ai envie de boire un verre parce que je suis invité chez des amis, je vais le faire sans crainte parce que je sais que derrière, je vais pas avoir envie d'en boire 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 comme avant, quoi.
Ouais. Est-ce que vous avez ressenti des effets secondaires également avec la prise de ce médicament?
Oui, essentiellement, une grosse fatigue, surtout au début. Puis après, je pense que le corps s'habitue au baclofène.
Et aujourd'hui, vous prenez combien? Alors, encore une bouteille ou beaucoup moins?
Non, beaucoup moins. Là, je peux rester 15 jours sans boire. Je bois quand j'ai envie de boire, quand l'occasion se présente. En fait, j'y pense pas, quoi. Oui. Avant, forcément, il fallait que j'aille expressément au magasin pour aller faire des courses, pour avoir suffisamment à boire à la maison.
Et on imagine que ça a changé votre vie, vos relations avec votre entourage?
Bah, écoutez, mes relations avec mon entourage étaient quand même bonnes parce que j'arrivais à faire passer ça, parce que je suis assez festive, assez sociable. Voilà, donc mes relations sont restées bonnes, mais c'est surtout les relations vis-à-vis de moi-même parce qu'on a honte. On se dit, mais c'est pas possible, je suis nulle, pourquoi je n'arrive pas à arrêter de boire?
Et l'objectif maintenant, Marie, c'est d'arrêter le baclofène progressivement et d'arrêter de boire, quoi. Hein, c'est-à-dire de rester à ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire quelques verres, quoi, de temps en temps.
Donc voilà, si maintenant, un jour, au fur et à mesure que je descends, je me rends compte qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe, que l'envie revient, à ce moment-là, j'arrête de descendre et s'il faut, je réaugmente de 10, par exemple. Ouais. Mais ça, j'en sais rien aujourd'hui.
Oui, merci Marie et bon courage donc pour la suite. Beaucoup d'espoir donc évidemment, beaucoup de réactions au 39-21 également. Hein, vous pouvez continuer de nous appeler pour réagir tout à l'heure, ainsi que par internet et sur notre page Facebook Europe 1 Midi. D'un mot avant une petite pause, Philippe Jory, de l'espoir donc à travers ce témoignage de Marie qu'on vient d'entendre.
Beaucoup d'espoir, en effet, mais moi j'ai deux casquettes. J'ai une casquette universitaire, où je vais dire qu'il faut attendre les résultats de notre étude et de l'étude. Enfin, il y a 2 études en France qu'il faut le dire, ce sont les 2 seules au monde actuellement. Cocorico, quand même. Ouais. Et puis ma casquette de médecin de terrain, de médecin généraliste dans mon cabinet, où là je vais être un petit peu plus enthousiaste. C'est vrai que ça m'a bluffé cette molécule.
Ouais. Voilà. Le docteur Amine Benyamina.
Bah, je vais, en étant moi-même universitaire et clinicien comme Philippe, dire à la fois
beaucoup d'espoir. Il faut reconnaître que quand même, il y a quelque chose qui est venu bousculer les pratiques en matière de prescription en général et en matière d'addictologie en particulier. Comme tout le monde le sait, c'est une discipline dans laquelle c'est un véritable désert en matière de pharmacopée. La prise en charge d'un patient alcoolique ne dépend pas simplement d'un médicament. C'est la raison pour laquelle, Philippe est d'accord avec moi, il faut ne pas susciter trop d'espoir. Ouais. Mais en même temps, soutenir ce qui se passe et attendre les bons profils et les effets réels à côté.
Oui, merci. C'est ce que nous allons voir dans un instant et avec les effets aussi de l'alcoolisme et les ravages de l'alcoolisme en France. 100 morts par jour, c'est ce que nous verrons dans un instant avec Catherine Hill. À partir de quand devient-on dépendant à l'alcool ?
13h. Patrick Roger.
Le débat d'Europe à midi s'intéresse donc aujourd'hui au baclofène, mais pas que, plus largement, évidemment, à l'alcool, Patrick.
Oui, à l'alcoolisme, Catherine Hill, je le disais tout à l'heure, 100 morts par jour, un mort toutes les 12 minutes, disait même Philippe Jory. C'est quoi l'état de l'alcoolisme en France et à partir de quand? On le dit notamment beaucoup aussi pour les jeunes qui reviennent énormément à l'alcool aujourd'hui.
Alors, d'abord, je ne suis pas tout à fait certaine qu'il faut seulement parler d'alcoolisme, ouais. Il faut plutôt parler de l'alcoolisation de la population française.
Ouais.
Si on prend tout ce qui est mis sur le marché en France et qu'on le répartit uniformément dans toute la population de 15 ans et plus, on arrive à presque 3 verres par jour, 2,7 verres. Un verre à 10 grammes d'alcool, c'est ce qu'on vous sert
ça,
dans un café.
Ouais.
Ça, c'est la moyenne. Ouais. Dans cette population totale de 15 ans et plus, il y a des filles de 15 ans et des dames de 90 ans et aussi des messieurs de 90 ans qui probablement boivent pas beaucoup. On pense probablement qu'il y a un tiers des hommes qui boivent pas régulièrement et deux tiers des femmes qui boivent pas régulièrement. Donc, ça laisse la moitié de la population qui boit probablement plutôt 5 verres en moyenne. Ouais. Donc, quand on boit 5 verres en moyenne par jour, ouais. On boit trop.
Ouais.
Et les alcooliers se sont très bien débrouillés pour rajouter en dessous du message obligatoire « l'abus d'alcool est dangereux », ce sont les alcooliers qui ont rajouté « à consommer avec modération », qui n'a jamais fait partie du cahier des charges. Et ils se sont en plus très bien débrouillés pour entretenir l'idée que modération, c'était 21 verres par semaine pour les hommes et 14 verres par semaine pour les femmes, ce qui est beaucoup trop.
Ouais.
Notre étude montre que les risques sont augmentés même quand on boit un verre par jour. Et un verre par jour chez les femmes, par exemple, augmente de 7% le risque de cancer du sein, ce qui fait que c'est une des premières causes évitables de cancer du sein.
Ah, vous êtes pour une suppression totale de l'alcool ?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Mais je dis juste que la population française boit beaucoup trop. Mais vous le savez bien, quand vous invitez des gens à dîner, vous regardez les cadavres le lendemain, vous vous dites « oh là là ». Et vous savez bien que vous avez des tas d'amis qui ont des problèmes d'alcool et consommer avec modération, tout le monde consomme avec modération et celui qui ne consomme pas avec modération, c'est juste l'autre. Alors, les lobbies de l'alcool sont très puissants. Ils financent un certain nombre des chercheurs à travers l'Institut de recherche et d'études sur les boissons. Et ils sont très efficacement arrivés à concentrer les problèmes sur des sous-populations bien identifiées. Les femmes enceintes, on ne veut pas qu'elles boivent. On met un tout petit logo écrit de préférence sur les bouteilles en jaune sur fond doré qu'on personne ne voit. Et le syndrome d'alcoolisme fœtal est une catastrophe très sous-estimée en France. Les jeunes, les souleries des jeunes que les alcooliers ont beaucoup entretenu avec les open bars et en donnant à boire dans les grandes écoles et dans les universités, etc. Donc on cible sur les sous-populations et ce qu'on appelle l'alcoolique à problème, qui est la population auquel s'intéresse.
Oui, qui est là, des gens qui boivent énormément. Il y avait
gens,
le témoignage de Marie quand même, c'était 4 bouteilles par jour.
Je nie pas que ce problème existe, mais je dis juste qu'il faut voir l'ensemble de l'iceberg et pas seulement la partie émergée.
À partir de quand ça devient quand même dangereux? Bon, là vous avez dit un verre, deux verres, attention,
je
il faut faire attention.
Je dis qu'à la dose d'un verre par jour, les maléfices l'emportent sur les bénéfices. Et notre étude tient compte de l'effet protecteur sur les risques de
et quand est-ce qu'on devient dépendant?
Ça, je ne suis pas compétente pour le dire. Je vais vous adresser à un addictologue.
Oui, bah, ils sont là avec nous, justement. Amine Benyamina, quand est-ce qu'on devient dépendant à l'alcool?
Je bois les paroles de Catherine et sans modération.
Oui, sans modération, oui, absolument.
Simplement, une petite précision, puis je répondrai à votre question, c'est qu'elle a 10 fois raison de pointer l'évolution des lobbies et des alcooliers qui ont clairement, sous la main, une population captive, ce sont les hommes d'un âge mûr qui sont consommateurs dépendants, dont on n'a pas besoin de continuer à les travailler, et qui actuellement sont en train de faire un focus sur les jeunes et sur les femmes, qui sont deux populations qu'on essaye, entre guillemets, de draguer avec un packaging nouveau, pour renouveler les générations, parce qu'une personne, soit elle disparaît, elle rentre dans le système de soins, soit elle meurt.
Ouais.
par les problèmes d'alcool. Et donc là, on a un vrai problème de renouvellement des consommateurs. À quel moment devient-on dépendant? Lorsqu'on perd le contrôle, tout simplement de la consommation et que l'on n'est plus capable de se gérer soi-même et dans son environnement. Ouais. Pour faire court, pour ne pas être rébarbatif avec nos auditeurs.
Et là, donc du coup, il y a cette arme du baclofène que l'on a découvert. Il y a une double facette d'ailleurs derrière. Ce que disent certains médecins, d'un côté, c'est bien parce que ça permet d'expérimenter et peut-être de réussir. Et puis peut-être de l'autre côté, le scandale du médiator. C'est-à-dire qu'on détourne un médicament et qui nous dit que dans quelques années, on ne reviendra pas en arrière en disant « bah oui, mais ce n'était pas la destination initiale ». Philippe Jory.
Je crois qu'il faut absolument pas comparer. Le médiator a été détourné dans des buts, on va dire, d'amaigrissement. Le médiator est un amphétamine, on le sait très bien, c'est amphétaminique. Donc c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'était vraiment, comme on dit, de confort, un détournement de confort pour que les femmes puissent maigrir un petit peu. Donc c'était pas un médicament de santé publique. Alors que là, on est dans un problème de santé publique majeur. Oui. On peut pas comparer au niveau du bénéfice-risque. C'est incomparable.
Oui. Catherine, il a quand même des réticences, non?
Si le baclofène cause une maladie grave chez un consommateur sur 2000, pour l'instant, nous n'avons absolument pas des éléments pour identifier le problème. Donc, c'est juste, bien sûr, ça a l'air efficace, c'est un vrai, ça s'adresse à un vrai problème de santé. On pourrait dire que l'obésité, c'était aussi un vrai problème de santé. Donc, c'est pas si différent. Et tant qu'on n'a pas évalué les bénéfices et les risques et regardé les deux et se demandé si ça valait la peine ou pas, on est dans le brouillard. C'est prometteur.
Philippe Jory, dans le brouillard?
Non, pas du tout. Pour moi, non, parce que, en fait, d'abord, le baclofène existe depuis les années 70, et pour l'instant, il n'y a eu aucune alarme, alors qu'il a déjà été prescrit pas mal pour d'autres indications. Alors que le médiator, je vais vous dire, le médiator, en 76, il y a une revue qui s'appelle Pratique, avant prescrire, qui avait dit attention, c'est une amphétamine, attention, il y a un danger. Oui. Et donc, on était prévenu depuis très longtemps.
Restons sur le baclofène. Oui.
Comparer le médiator Amine au baclofène Benjamin. Et vice-versa, c'est une erreur. Je pense que c'est pas la même histoire, c'est pas la même trajectoire et ce n'est pas la même maladie. Oui. On est sur quelque chose de totalement différent. Ce qui, pour ma part, contrairement ou bien... Mais pas totalement différente de ce que dit Philippe Jory. C'est, je le dis, parce qu'on le voit, on a un certain nombre de patients qui viennent parce qu'ils vont sur Internet, ils écoutent Europe 1, ils ouvrent la presse, ils lisent que nous avons trouvé le médicament qui guérit. Le mot est fort, qui guérit l'alcoolisme. C'est de ça dont moi, j'ai très peur de susciter un espoir. Et ce qui est terrible, c'est que si ça ne marche pas, si cette personne, c'est tout l'espoir suscité, la dynamique qui va s'inverser.
Mais il y a un effet psychologique important.
Il est important. Donc, comme ce médicament est quelque chose de réellement révolutionnaire, mais ce qu'il faut vérifier, Catherine, il a raison.
D'où l'expérience de 3 ans.
Il faut le faire, cette expérience, et ne pas finalement plomber, entre guillemets, ce médicament qui peut être vraiment porteur de guérison et d'espoir pour des gens qui ont une maladie grave. Donc attention.
Nous marquons une petite pause. On se retrouve avec vos appels qui sont très nombreux au 3921 et nos spécialistes ici même en studio sur Europe 1 vous répondront.
Patrick Roger.
Le débat d'Europe à midi se poursuit avec maintenant vos réactions en direct au standard au 3921. Grégory nous attend. Patrick, c'est un alcoolique abstinent qui n'a pas souhaité prendre du baclofène.
Oui, Grégory, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Racontez-nous votre histoire et votre opinion.
Oui, bonjour Patrick. Moi, en fait, je picolais depuis un peu plus de 20 ans. Et j'étais accro à la bière. J'en tapais dans 6 à 8 litres par jour. Et donc, moi, je suis allé dans un centre exprès pour ça, pendant 5 semaines, et on nous a parlé justement du baclofène, mais je trouve que c'est un faux problème, enfin une fausse solution, puisque en soi, le gars, il va pouvoir se dire, je peux picoler tel jour, mais bon, j'ai le baclofène derrière, donc ce qui fait qu'après, je suis tranquille. Mais il restera quand même alcoolo, le gars, parce qu'il pourra quand même toujours picoler comme il veut.
Oui.
Alors que moi, quand je suis arrivé au centre, on nous a dit, maintenant, c'est fini, à vie. Parce que du moment où je vais reprendre un verre, eh ben moi je sais que je vais repartir là-dedans, qu'il y ait du baclofène ou pas.
Ça, donc l'aspect psychologique pour vous est quand même capital. C'est ce qu'on voit, Grégory. Merci de ce témoignage. Alors Philippe Jory et le docteur Amine Benyamina par rapport à ce témoignage. Philippe Jory.
Oui, non, mais c'est très
les craintes
bien.
Par rapport au baclofène, oui.
Oui, non, mais c'est très bien qu'il y ait des gens comme ça, des patients qui réussissent à tenir. Si vous voulez, je vais vous dire une chose importante, c'est que pourquoi ce sont les généralistes qui ont pris en charge ce médicament, c'est que nous avons vu dans nos cabinets arriver quand ça s'est su qu'il y avait un médicament qui permettait de boire, mais de pouvoir gérer sa consommation, parce que c'est pas pareil que de boire sans gérer. Là, le baclofène, les gens nous le disent, c'est bluffant, nous disent, mais moi j'ai pas fini ma bouteille, j'ai pas fini mon verre, et même j'en ai pas eu envie. Moi, quand je prends un patient en charge, je lui dis, on se donne 3-4 mois. Moi, le patient me dit, je ne veux pas être abstinent. Je lui dis, ok. Et au bout de 3-4 mois, c'est très surprenant qu'il me dit, vous savez, je bois plus, j'ai plus envie. Et puis quand je bois, j'arrête. Et donc, on a vu arriver dans nos cabinets des patients qui étaient dans un déni ou qui ne voulaient pas parler d'alcool parce que pour eux c'était l'abstinence pure et dure, ils n'en voulaient pas. Et donc ces patients, je veux dire, qui sont arrivés et on les a pris en charge. On les a pris en charge, c'est pas pour rien qu'il y a 16 000 généralistes actuellement qui prescrivent du baclofène à des patients qui voulaient pas en parler avant, qui voulaient pas se soigner avant. Et c'est quand même important.
Docteur Amine Benyamina.
Oui, ce qui est important aussi dans le témoignage, c'est qu'on voit bien que la prise en charge de l'alcoolisme ou d'alcoolodépendance n'est pas simplement la prescription d'un médicament, même si ce médicament est une panacée au sens grec du terme. C'est une prise en charge globale que fait Philippe, que nous faisons. Dans nos cabinets, c'est quelqu'un qui vient, qu'on questionne sur son environnement, qu'on questionne sur sa façon d'être, sur sa famille, sur sa psychologie. Donc, on a beau avoir le meilleur médicament du monde, on ne fermera pas les structures d'addicto, ni les services de sevrage. Il faut l'avoir en tête. Il faut vraiment que ce message passe auprès des gens chez lesquels même le baclofène est efficace à 100%. Oui. Il faut l'avoir vraiment en tête, c'est très important.
Oui, alors justement, nous sommes en ligne avec Benoît, hein, auditeur au 3921 qui nous appelle, et son psy lui a conseillé récemment du baclofène, hein, c'est ça. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour Patrick. Voilà, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis déjà traité avec un traitement de substitution au Subutex. Oui. Et donc dernièrement, donc je suis allé voir un psy pour des problèmes d'alcool. Oui. Et donc le psy m'a conseillé de prendre du baclofène. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par ça, et ensuite, quand je suis allé voir mon addictologue, que je vois depuis très longtemps, lui m'a déconseillé et m'a plutôt conseillé d'augmenter ma dose de Subutex. Et donc, parce que le baclofène ne faisait rien sur moi. Pourtant, j'en prenais 6 par jour.
Et ce n'était pas efficace. Oui, pas sur... Alors Philippe Jory, du coup, vous avez besoin d'un peu de conseils, hein, Benoît. Philippe Jory, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Benoît?
Je pense que le baclofène a été essayé il y a très longtemps, depuis très longtemps, pour l'alcool, à des doses qui sont 30 mg, ce qui sont 60 maximum. Et en fait, on se rend compte qu'il faut beaucoup plus souvent. Hein, en général, c'est une moyenne, c'est 12 comprimés par jour pour pouvoir une efficacité. Donc ceux qui sont assis et qui disent que ça ne fait rien, je veux dire que c'est parce que ce n'est pas suffisant.
Oui.
Tout.
Mais est-ce qu'il y a des gens pour qui ça peut ne pas fonctionner?
Évidemment, mais l'aspirine ne soigne pas tous les maux de tête. Oui. Je veux dire que ça n'existe pas un médicament qui marche pour tout. Oui. Et comme le dit très bien Amine, et c'est ce que nous faisons tout le temps, c'est une prise en charge globale. Et oui, c'est une prise en charge biomédicale, psychologique, sociale. Ce sont des gens qui ont souvent été massacrés par la vie. Oui. Et je veux dire que c'est pas un comprimé qui va les faire renaître, et c'est évident.
Les effets secondaires, on l'a évoqué tout à l'heure avec Marie, quels sont-ils?
Essentiellement la sédation, c'est vrai que tout le monde les rapporte, il y a des gens qui supportent plus ou moins, et puis on est tous différents. Il y a des patients avec 12 comprimés, c'est-à-dire 120 mg, c'est le début de l'aventure baclofène pour aider les gens à s'arrêter, en gros. Quelque sorte, on a des gens qui lâchent, qui n'arrivent pas. Donc on est dans une démarche où on tâtonne pour essayer d'aider nos patients. Et il y a un élément qui est très important, que l'on cite peu, mais qui est vrai, il y a un certain nombre de patients qui ont des petits syndromes à l'arrêt, des petits syndromes de manque, qui n'ont rien à voir avec, que les choses soient claires, avec les drogues en général, mais qui parfois peuvent être gênants, c'est tout.
Oui. Catherine Hill, vous vouliez ajouter quelque chose?
Mais je voulais dire que le baclofène est un médicament, c'est pas encore un remède miracle, ça sera un remède miracle quand on aura bien mesuré les bénéfices et les risques.
Dans 3 ans. Hein,
mais c'est un produit nouveau dans le traitement des addictions, dans la mesure où il invalide le dogme qui était qu'il fallait pas boire du tout.
Pas boire du tout, oui.
Et si ça marche vraiment, et j'attendrai le résultat des essais pour être vraiment convaincu.
Vous allez applaudir.
C'est vraiment bien, oui. Et ça explique aussi, je pense, les réticences du monde de l'addictologie, et des alcooliques anonymes et tout ça, qui sont dans une autre optique, qui était la seule qu'on avait en magasin jusqu'à aujourd'hui, qui est l'abstinence.
Oui.
Donc si c'est vraiment un autre outil, c'est vraiment révolutionnaire.
Voilà, c'est à suivre. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Donc l'expérimentation est en cours. Enfin, du moins, elle démarre. Il y en a déjà qui ont démarré, et puis d'autres avec une reconnaissance ou pas officielle dans 3 ans, puisque voilà, c'est parti pour cette autorisation. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans un instant sur Europe 1, le grand journal de la mi-journée.